France Musique. Tour de chant, Martin Penney.
Je monte sur les planches et vous venez me voir.
Sur la scène, il y a l'amour et mes façons d'y croire.
Aujourd'hui, un siècle de chansons enfantines, première partie. En cette période de fête, où les enfants sont au centre des réunions familiales, Tour de Chant va faire un détour du côté des comptines. Ces refrains familiers ont la particularité de traverser le temps, car ils se transmettent de génération en génération, par le biais de l'école, de la famille, des colonies de vacances et plus généralement des mouvements de jeunesse. On peut estimer à plus d'une centaine les comptines pour enfants, mais la frontière est assez difficile à fixer avec les chansons anciennes traditionnelles. Et pour nous aider à entendre ce qui se cache derrière ces paroles familières et apparemment anodines, je reçois aujourd'hui Gilles Hannet, professeur d'économie et gestion à l'Éducation nationale, et par ailleurs passionné de chansons, en particulier le répertoire des comptines, des génériques d'émissions de télévision, des contes enregistrés et même du doublage des dessins animés et des comédies musicales. Et l'une des plus belles, à mon sens, de ces comptines est « À la Clairefontaine », dont il existe de multiples versions enregistrées. J'ai choisi celle inattendue de Michel Delpech, enregistrée en 1969, orchestrée par son compositeur attitré, Roland Vincent.
Si belle que je m'y suis baigné. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je t'oublierai. J'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baigné. Branche, un rossignol chantait. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai.
Gilles Hannet, bonjour.
Bonjour Martin.
Alors là, je vous ai surpris avec cette version de À la Clairefontaine par Michel Delpech, qui apparemment n'est pas complète.
Non, parce qu'il existe plusieurs versions de cette chanson. Alors évidemment, dans les mémoires collectives, elles sont plus ou moins mémorisées par les personnes. Et normalement, ça va bien au-delà, puisqu'il y a cette histoire de Rossignol chante, toi qui es le cœur gay, et la rupture avec la... En général, c'est plutôt la jeune fille qui chante la chanson, vient du fait qu'elle lui a refusé un bouquet de roses ou un bouton de rose. Et évidemment, on ne fait pas du tout référence à la même chose. Et là, on comprend avec cette chanson-là que si c'est un bouton de rose qu'on lui a refusé, c'est plutôt une chanson galante, une chanson d'amour, où la jeune fille a voulu préserver sa virginité pour pouvoir peut-être se marier et espérer se marier après.
Alors, je crois que là, avec cette chanson, on rentre dans le vif du sujet, à savoir les multiples versions, les multiples sous-entendus, le fait d'édulcorer des chansons anciennes à l'usage des enfants, parce que toutes ces comptines sont issues du répertoire traditionnel, anonyme le plus souvent, dont les origines remontent au XVIIIe siècle, au XVIIe, parfois même au XVe, et après diverses transformations par la transmission orale, la plupart ont été fixées au XIXe siècle par les recueils de chansons enfantines et les feuilles volantes des images d'Épinal, les fameuses avec les petits dessins qui étaient donc vendues et je pense appréciées par les enfants à l'époque. Il y avait même des recueils. Et on trouve parfois quelques chansons d'auteurs, cette fois bien identifiées, mais des siècles passés, qui sont entrées dans la mémoire collective. Et on ne connaît les auteurs que si vraiment on fait les recherches correspondantes. Sinon, elles figurent au même titre que toutes les chansons anonymes.
Oui, elles sont en général répertoriées avec répertoire traditionnel. C'est ce qu'on trouve sur les disques enregistrés.
Alors, à propos de disques enregistrés, je voudrais, à travers cette émission aussi, faire une petite histoire de l'enregistrement, puisque les tout premiers enregistrements effectués en France dans les années 1890 l'ont été sur des cylindres qui ont précédé le disque, et on trouvait déjà sur ces cylindres des comptines. Et ces cylindres étaient destinés à des poupées parlantes équipées d'un mini-lecteur, et c'était fabriqué par la maison Lioret, les cylindres Lioret. Et donc ce monsieur Lioret était horloger de son état, à Moret-sur-Loing. Et voici un exemple, alors vraiment exhumé, de la préhistoire de l'enregistrement. Vous allez tous reconnaître la chanson.
Le bon roi d'Angleterre a fait sa culotte à l'envers. Le grand prince Édouard lui dit : Ô mon roi, votre majesté est mal culottée. C'est vrai, lui dit le roi, je vais la remettre à l'endroit.
Alors Gilles Hannet, on imagine une poupée de 1895 équipée de ce petit cylindre, c'était révolutionnaire pour l'époque, et donc poupée qui chante une comptine qui à l'époque n'était pas si ancienne. Bon, maintenant ça nous paraît très loin, mais c'est une chanson qui figurait dans les recueils qu'on éditait à l'époque. Alors, toutes ces rondes et comptines relèvent de différentes thématiques qu'on peut même classer en catégories. Vous vous êtes amusé, Gilles, à faire une sorte de taxonomie, l'art des classifications de ces différentes chansons pour enfants. Et donc, une catégorie, par exemple, c'est les chansons de métier.
Oui, alors dans les chansons de métier, on retrouve tous les métiers de l'époque. C'est-à-dire qu'en fait, on va retrouver les trois ordres. D'abord, dans les chansons, il y a le roi, les princesses, les chevaliers, les militaires. Il va y avoir le clergé et puis il va y avoir le tiers-état. Et dans le tiers-état, on va retrouver les commerçants, les artisans, donc la boulangère. Donc la boulangère a des écus qui ne lui coûtent guère, peut-être parce qu'elle gagne son argent autrement qu'en vendant son pain. On va retrouver le vitrier qui passe pour remplacer les carreaux. Et puis on va retrouver le meunier qui dort. On reparlera peut-être du meunier un peu plus tard. Et puis, on va retrouver le cantonnier. Et très souvent, ce qui est assez amusant dans les chansons, c'est que les classes sociales se croisent. Et quand elles se croisent, évidemment, il y a un peu des frictions. Parce que ce sont deux mondes très différents.
Alors, justement, puisqu'on parle des cantonniers, on va écouter « Sur la route de Louviers ». Mais je poursuis ma petite histoire de l'enregistrement. Là, on va faire un petit bond. On est en 1911. Et dans cette deuxième halte, nous allons retrouver un personnage éminent de la vie montmartroise de la fin du XIXe siècle. Il s'agit d'Aristide Bruand, célèbre figure des cabarets, et considéré d'ailleurs comme le père de la chanson réaliste, car il écrivait lui-même ses œuvres, et on lui en doit de très très belles. Mais ce n'est pas notre sujet du jour, parce qu'il intégrait également dans son répertoire des chansons qui n'étaient pas de lui, donc des chansons traditionnelles, anciennes, qu'il arrangeait un petit peu à sa façon. Et ça donne donc une version enregistré en 1911 de Sur la route de Louviers par Aristide Bruand.
Une belle dame va s'apporter dans un beau Pour platanier, et qui lui dit, pour platanier, tu fais un foutu métier, 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 métier. Le cantonnier lui répond, le cantonnier lui répond, faut que nous rissions nos garçons, faut que nous rissions nos garçons, car si je roulions, barosse comme vous, car si je roulions, barosse comme vous, ça ne casserions pas de cailloux. La belle dame en s'en allant, la belle dame en s'en allant, disait vrai, c'était pas tant, disait vrai, c'était pas tant, que ces gens-là sont insolents, que ces gens-là sont insolents, il faudra les foutre dedans, dans, 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 dans. Mais les fils du cantonnier, mais les fils du cantonnier, un beau jour sont arrivés, un beau jour sont arrivés, et la dame au carrosse en or, et la dame au carrosse en or, et se l'ont foutu dehors.
Cet enregistrement de 1911 était bien sûr acoustique, c'est-à-dire que le micro n'était pas encore inventé. Et Gilles Hannet, je suppose que vous avez pu apprécier comme moi l'art de la diction. Parce qu'on comprend tout ce qu'il chante. Aristide Bruand, sur ce disque pâté à saphir, c'était la marque. Et moi, je suis quand même assez éberlué par cette façon de déclamer pour un public ou pour un phonographe à l'époque.
Oui, c'est assez impressionnant. D'ailleurs, moi, j'ai tendance à préférer les chansons et les comptines interprétées par de véritables chanteurs plutôt que par des chorales d'enfants, parce qu'on profite beaucoup mieux du texte et qu'il y a aussi une volonté d'interpréter, de donner une intention qui est beaucoup plus présente. Et c'est tout le talent de ces chanteurs de faire vivre la chanson plus que de simplement la chanter. C'est ça, de véritables interprètes. Alors, ce qui est intéressant dans cette chanson, qui s'inscrit dans un contexte en plus géographique. Et ça, c'est souvent le cas dans les comptines. Hein. Ça se passe en Lorraine. Il y a les garçons de Marraine de la pêche aux moules. Il y a les prisons de Nantes. Donc, il y a souvent un contexte géographique qui vient de l'origine de la chanson ou des fois simplement qui fait partie des paroles de la chanson, même si la chanson n'est pas originaire de la région. Et autre particularité, là, c'est la fin qui m'a surpris parce que finalement... C'est pas la fin du tout à laquelle nous sommes habitués quand on écoute tous les enregistrements qui existent de cette chanson. Normalement, la fin de la chanson est beaucoup plus âpre quand elle arrive jusqu'au bout, parce qu'elle peut être aussi coupée avant cette conclusion. Le dernier couplet de la chanson dit « Cette réponse se fait remarquer par sa grande simplicité ». Après que le cantonnier lui répond « Faut que nourrissons nos garçons ». Et donc, cette réponse se fait remarquer par la dame, par sa grande simplicité. Et la conclusion est « Ce qui prouve que les malheureux, s'ils le sont, c'est malgré eux ». Donc aujourd'hui, entendre ce type de paroles, je pense que ça ferait réagir plus d'un.
Alors, autre catégorie de chansons destinées aux enfants, il y a les anciennes marches militaires qui ont accompagné les batailles de l'histoire de France. Alors on pense bien sûr à « Auprès de ma blonde », chanson du XVIIe siècle, « Malbrousse en va-t-en-guerre », des XVIIIe siècle, ou « As-tu vu la casquette du père Bugeaud ». Celle-là, elle est du XIXe siècle, elle fait d'ailleurs référence à la conquête de l'Algérie en 1830. Donc voilà, toutes ces marches d'origine militaire, comment est-ce qu'elles sont rentrées dans le répertoire enfantin?
Peut-être celle qui me paraît la plus ancienne, c'est Auprès de ma blonde, donc là qui fait référence à la guerre que la France livre à l'Autriche et qui évoque donc cette femme qui attend le retour de son mari, qui, comme plusieurs femmes à l'époque, se fait courtiser par des gens et qui repousse leurs avances en disant qu'elle est prête à sacrifier tout ce qu'elle a de plus cher, y compris même sa patrie, pour le retour de son mari. Donc ce côté un peu sacrificiel de la femme, un peu à l'image de la Pénélope d'Ulysse, ça fait partie des images d'Épinal que vous évoquiez tout à l'heure et qui font que ces chansons rentrent dans la mémoire. Et après, je pense que pour les plus récentes comme La casquette du père Bugeaud, c'est des chansons qui reviennent peut-être avec les hommes qui reviennent de la guerre et qui inventent des chansons pour se moquer d'un gradé. Et finalement, ça reste dans la mémoire collective parce qu'elles font rire.
Tout simplement.
Tout simplement.
Eh bien, Gilles, nous allons continuer à cheminer dans l'histoire de l'enregistrement, puisque cette fois, nous sommes en 1930, lorsque certaines marques lancent des petits disques illustrés pour enfants, format de 15 cm, qu'on pouvait jouer sur des phonographes miniatures, des jouets en quelque sorte. Donc, vous voyez, ça remonte quand même déjà assez loin, ce principe de pouvoir permettre aux enfants de s'amuser avec des enregistrements. Et donc, voici une version de Auprès de ma blonde par Mad Rainville en 1930. Malheureusement, on ne peut pas vous montrer le disque, mais donc il s'agit d'un petit disque de 15 cm de marque Pygmo Plume avec un dessin imprimé, avec en plus une couche avec l'enregistrement. Donc c'était des disques destinés vraiment aux enfants, à jouer sur des petits phonographes qu'on leur offrait par exemple à Noël, donc c'est tout à fait de circonstance. Et donc ça remonte quand même à 1930, hein, ce qui veut dire qu'on avait déjà pensé, les fabricants avaient déjà pensé à satisfaire les enfants et à exploiter toutes les dernières techniques. Gilles Hanet, cette chanson, qu'est-ce qu'elle vous évoque auprès de ma blonde?
Alors, bah déjà, moi, ce qui me surprend, c'est que quand j'étais enfant, je pensais que la personne qui chantait la chanson, c'était un monsieur. Parce qu'auprès de ma blonde, il fait bon dormir, donc je pensais qu'il parlait à la première personne. Et là, si on écoute les paroles, en fait, non, c'est la femme qui chante la chanson en attendant le retour de son mari. Donc ça, c'est amusant. C'est une marche. Alors, la question, c'est qui l'a popularisé? Est-ce que finalement, c'était plutôt des hommes qui se la chantaient entre eux ou des femmes qui la chantaient en espérant le retour de leur mari? Puisque les autres chansons de marche qu'on entend d'habitude, ben, on évoquait la casquette du père Bugeaud. Là, c'est plutôt des chansons d'hommes. Et la précédente que vous évoquiez...
Malbrousse en va-t-en-guerre.
Malbrousse en va-t-en-guerre. Là, c'est vrai que c'est plus unisexe, en fait. Mais voilà, moi, ce qui me surprend, c'est... Quand je l'écoutais enfant, je pensais que c'était un homme qui chantait.
Et donc cette chanson « Malbrousse en va-t-en-guerre » qui date du XVIIIe siècle, je crois qu'elle fait référence à un personnage historique réel.
Oui, en fait, elle fait référence à un Anglais qui s'appelle John Churchill, qui était duc de Malbrousse et qui est mort en fait dans son lit. Mais comme il a gagné une bataille contre les Français, eh bien finalement, on a préféré le faire mourir en chanson. Voilà, donc c'est là d'où viennent les paroles de « Malbrousse en va-t-en-guerre ».
Très bien, bah on a appris quelque chose sur cette chanson qu'on connaît tous par cœur ou presque, mais dont on ne connaît pas forcément l'origine.
Malbrousse en va-t-en-guerre, mirotant, mirotant, mirotaine. Malbrousse en va-t-en-guerre, ne sait quand reviendra, ne sait quand reviendra, ne sait quand reviendra. Il reviendra sa Pâque, mirotant, mirotant, mirotaine. Il reviendra sa Pâque, ou à la Trinité, ou à la Trinité, ou à la Trinité. La Trinité se passe, mirotant, mirotant, mirotaine. La Trinité se passe, Malbrousse ne revient pas. Malbrousse ne revient pas, Malbrousse ne revient pas. Madame à sa tourmente, mirotant, mirotant, mirotaine. Madame à sa tourmente, si haut qu'elle peut monter. Si haut qu'elle peut monter, si haut qu'elle peut monter. Elle aperçoit son page, mirotant, mirotant, mirotaine. Elle aperçoit son page, tout de noir habillé.
Et alors, Gilles Hannet, il y a une autre catégorie maintenant que je voudrais aborder, c'est les berceuses. Alors là, il y en a beaucoup des berceuses, et ça fait vraiment partie du répertoire de base des comptines, parce que c'est presque indispensable, je dirais, dans la vie familiale.
Et puis, je pense que c'est certainement les premières chansons qui ont existé, puisque... Bon, on prêtait pas tellement attention aux enfants avant qu'ils ne deviennent adultes. Donc, pourquoi leur accorder du temps pour composer des chansons ? Donc là, c'était vraiment des chansons destinées aux enfants pour les apaiser et les endormir. Donc, le répertoire, à mon avis, est beaucoup plus important à cause de cela.
Donc là, on peut en citer certains nombres. Je pense par exemple à « Fais dodo, cola, mon petit frère » ou à « Dodo, l'enfant d'eau ». Et ici, on va l'écouter par Paulette Rollin, une chanteuse que vous aimez bien, je crois. Et donc là, on avance. Paulette Rollin, en fait, elle s'est un peu spécialisée à un moment donné dans les comptines et les chansons pour enfants.
France Musique, Tour de chant, Martin Penet.
Dodo, l'enfant d'eau, l'enfant dormira bien vite. Dodo, l'enfant d'eau, l'enfant dormira bientôt. Une poule blanche est là dans la grange, qui va faire un petit coco pour l'enfant qui va faire dodo. Dodo, l'enfant d'eau, l'enfant dormira bien vite. Dodo, l'enfant d'eau, l'enfant dormira bientôt.
Gilles Hannet, je disais que Paulette Rollin fait partie des chanteuses qui vous intéressent particulièrement. Et vous pouvez nous en dire quelques mots ?
Ah oui, alors Paulette Rollin, elle fait vraiment partie de mon panthéon, puisqu'elle est à la croisée de tous mes intérêts. En fait, j'ai découvert cette artiste parce qu'elle avait prêté sa voix chantée à Cendrillon, le dessin animé de Walt Disney, dans le premier doublage de 1950. Et ça a éveillé mon intérêt pour elle. J'ai cherché ses enregistrements et j'ai même fini par la rencontrer à la fin de sa vie et pour lui dire toute l'admiration et tout l'amour que je lui portais, puisque je trouve que sa voix chaude, très maternelle, finalement enveloppe parfaitement cette chanson.
Celle-là et toutes les autres qu'elle a enregistrées.
Et toutes les autres. Et après, c'est tout l'intérêt de les collectionner, de les retrouver.
Et d'ailleurs, je me demandais, là c'est un peu une question personnelle, mais d'où vient cette passion que vous avez, notamment pour le répertoire des chansons enfantines ?
Je crois que ça vient de la nostalgie. Je suis quelqu'un de profondément attaché à mon enfance, parce que c'était une période très très heureuse de ma vie. J'ai l'impression que même si on était issu d'un milieu moyen, de la classe moyenne, hein, mon père était typographe et ma mère était institutrice.
Et vous êtes né à Paris ?
J'ai grandi à Paris, dans le 15e arrondissement, et c'était vraiment une période très heureuse et qui était baignée de musique, parce que mes parents en écoutaient beaucoup. Et puis, on avait aussi un électrophone dans la chambre avec mes frères, ce qui donnait l'occasion d'écouter beaucoup d'enregistrements et de s'imprégner de chansons.
Donc, il y avait notamment des berceuses. Et puisqu'on est dans ce sujet, j'aimerais qu'on développe un petit peu, parce qu'en fait, il y en a énormément, des berceuses. Je pense à, par exemple, Le Petit Quinquin. Alors, celle-là, c'est une chanson d'auteur, de tout à fait connue et reconnue. Et puisqu'il s'agit du chansonnier lillois Alexandre Desrousseaux, qu'il a écrite en 1855. Mmh. Mais elle est rentrée dans le répertoire et on a fini par oublier un petit peu Monsieur Desrousseaux. Et c'est vrai que Le Petit Quinquin, surtout dans le nord de la France, c'est vraiment une chanson très, très familière.
Oui, et puis il y a d'autres berceuses, il y a des berceuses classiques avec des mélodies de Brahms. Et puis après, il y a eu un répertoire qui est venu plutôt dans les années 50 avec des chansons spécialement écrites pour les enfants.
Et alors, dans le répertoire classique, je pense à une chanson qui s'appelle « À vous dirai-je maman », qui est en fait donc une bergerette anonyme, mais de la musique serait attribuée à Rameau.
Oui, alors des fois, on peut lire Mozart dans certains recueils. Il faudrait avoir un musicologue expérimenté pour identifier le morceau en question et puis le retrouver peut-être dans l'œuvre du compositeur auquel il faudrait véritablement le rattacher.
Mais ce qui est sûr, c'est que la chanson traditionnelle a parfois, et même assez souvent, des racines savantes, mais après, ça a ruisselé, selon l'expression à la mode, vers une population beaucoup beaucoup plus large et pas simplement les auditeurs des concerts de musique classique de l'époque. Donc voilà, c'est finalement c'est l'appropriation et la transformation de certaines mélodies par le peuple et qui font des comptines ou des chansons que tout le monde se transmet, et quitte à les faire à sa façon, quoi.
Oui, les chansons populaires. Et d'ailleurs, on peut remarquer qu'il existe également, on l'a déjà évoqué tout à l'heure, des différentes adaptations parce qu'elles passent par différentes personnes. Et dans l'enregistrement qu'on vient d'écouter avec Paulette Rollin, le passage au milieu de la chanson avec la poule et qui fait son petit œuf n'est pas dans tous les enregistrements. De temps en temps, elle est complètement occulté, oublié.
J'ai envie, Gilles Hannet, de prendre un exemple de transformation encore plus récente de « À vous dirais-je maman », par exemple, qui devient une sorte de twist enregistré par Kiki, nommé Kiki, un enfant, en 1967, et sur des nouvelles paroles, mais toujours sur la mélodie bien connue de « À vous dirais-je maman ».
À vous dirais-je maman, ce qui cause mon tourment, cette très vieille chanson, je la chante à ma façon. Je voudrais aussi te dire à toi, maman, oui, te dire ce qui cause mon tourment, t'expliquer pourquoi, malgré moi, bien souvent, je ne suis pas toujours très obéissant. Je fais pourtant tout pour être un peu plus sage. Pour y arriver, il me faut du courage. Mais pourtant, malgré mes bonnes résolutions, je reste le roi de la démolition. Mais vous voyez bien qu'aujourd'hui, comme avant, on a bien besoin de sa maman. Je voudrais aussi te dire à toi, maman, oui, te dire ce qui cause mon tourment. T'expliquer, maman, que c'est bien malgré moi de faire autant de dégâts. Je n'ai pas de chance et tous les jours qui passent, craque ou patatras, moi je fais de la casse. Et pourtant, malgré mes bonnes résolutions, je reste le roi de la démolition. Et vous voyez bien qu'aujourd'hui, comme avant, on a bien besoin de sa maman. Quand vont-elles enfin comprendre les mamans tous les ennuis que peut avoir leur enfant? Quand vont-elles enfin comprendre les mamans tous les ennuis que peut avoir leur enfant?
Voilà, le petit Kiki, en 1967, dans cette adaptation de « À vous dirais-je maman », qui montre qu'on peut encore transformer des chansons traditionnelles qu'on croit immuables. Et ben non, on peut encore jouer avec. Mais la chanson d'origine, À vous dirais-je maman, Gilles Hannet, elle a une source un peu savante, je crois.
Oui, en fait, c'est pas du tout une comptine. C'est un poème qui s'appelle La Confidence et qui raconte comment une jeune fille a perdu sa vertu. Donc, elle est amoureuse d'un beau qui s'appelle Sylvandre. Et à la fin, donc, elle finit par arrêter de résister. Et c'est ce qu'elle donc confie à sa mère. Donc, voilà, c'est le véritable contenu de la chanson.
Mais ça tombe bien parce qu'on va rester dans ce registre d'origine un peu savant qui a donné une chanson populaire. Il s'agit de « Il pleut bergère ». Donc cette romance a été composée par Louis-Victor Simon et a été écrite en 1780 par Philippe Fabre d'Églantine, alors jeune comédien ambulant, sous le titre « L'hospitalité ». Et bon, on sait que Fabre d'Églantine deviendra durant la Révolution député de la Convention, secrétaire et ami de Danton et qu'il sera guillotiné. Alors, on a beaucoup de versions de cette chanson « Il pleut bergère » tout au long du XXe siècle. Et je vous propose celle d'André Claveau, gravée en 1956 sur un disque pâté intitulé « La ronde des métiers ».
Tes blancs moutons, allons sous ma chaumière, bergère, vite allons. J'entends sous le feuillage l'eau qui tombe à grand bruit. Voici, voici l'orage, voilà l'éclair qui lui. Entends-tu le tonnerre? Il roule en approchant. Prends un abri, bergère, à ma droite en marchant. Je vois notre cabane, et tiens, voici venir ma mère et ma sœur Anne, qui vont l'étable ouvrir. Bonsoir, bonsoir ma mère, ma sœur Anne, bonsoir. J'amène ma bergère près de vous pour ce soir. Va te sécher, mamie, auprès de nos tisons. Sœur, fais-lui compagnie. Entre petits moutons.
André Claveau, donc en 1956, dans cette version de « Il pleut bergère », parole de Fabre d'Églantine, 1780. Alors, cette version, est-ce que c'est vraiment la bonne, Gilles Année?
Alors, c'est la bonne, mais ce n'est pas la plus complète, parce qu'en fait, il y a encore plusieurs couplets à cette chanson, donc, qui prend tout son sens d'ailleurs quand on l'entend chanter par un homme, alors que très souvent les comptines sont enregistrées par des femmes. Et donc là, chanté par un homme et avec les derniers couplets, on comprend que c'est un homme qui séduit une bergère, il la ramène chez lui. À la fin, il lui propose de s'allonger sur le lit et il lui promet également de la raccompagner le lendemain chez son père pour l'épouser, puisque je pense que dans la nuit, elle aura probablement perdu sa vertu.
Ah oui, donc c'est ça la vraie morale de l'histoire, alors.
Oui, c'est-à-dire que voilà, quand on... Enfin, en tout cas, c'est une des rares chansons, mais en tout cas, le galant promet de l'épouser. Dans la plupart des comptines, on essaye juste de trousser la fille sur le bord de la route et puis de repartir après.
Et donc... on chante ça aux enfants. Mais en fait, on les édulcore souvent, les chansons.
Oui, et ou alors elles servent également à forger la morale. Parce que si les hommes vous séduisent et vous abandonnent, donc il ne faut pas céder à leurs avances. Il faut écouter ses parents, être obéissant, suivre leurs avis. Sinon, il vous arrive malheur.
On va avoir d'ailleurs un peu plus tard des chansons dans ce registre-là. Là, je vous propose de rester un petit peu dans cette catégorie des chansons d'amour. Ça fait partie de votre inventaire. Et évidemment, on pense à la chanson qu'on a entendue au début de l'émission, à la Clairefontaine, mais il y a également La bergère et le monsieur, Mon père avait 500 moutons, Sur la route de Dijon, Margoton vint à l'eau, ou Belle aux roses, ou encore J'ai descendu dans mon jardin, également connu sous le titre de son refrain, Gentil coquelicot. Et donc là, on va l'écouter par une chanteuse que vous aimez également beaucoup, Gilles Année, qui s'appelle Maté Altéry.
Ah là, vous me faites vraiment plaisir.
J'ai descendu dans mon jardin pour y cueillir du romarin. Gentil coquelicot, mesdames, gentil coquelicot nouveau. Je n'en avais pas cueilli trois brins, je n'en avais pas cueilli trois brins, qu'un rossignol vint sur ma main. Gentil coquelicot, mesdames, gentil coquelicot nouveau. Il me dit trois mots en latin, il me dit trois mots en latin, que les hommes ne valent rien. Gentil coquelicot, mesdames, gentil coquelicot nouveau. Thank you. mais des demoiselles beaucoup de bien. Gentil coquelicot, mesdames, gentil coquelicot nouveau.
Le célèbre Gentil coquelicot, interprété par Maté Alteri en 1956. Et là encore, c'est une chanteuse que vous aimez beaucoup, Gilles Anet, et j'aimerais que vous nous en parliez un petit peu.
Alors Maté Alteri, moi la première fois que je l'ai entendue, c'était dans la version française de My Fair Lady, où elle doublait Audrey Hepburn pour la partie chantée, et je trouvais que ça collait merveilleusement bien à son physique. Puis après, j'ai découvert qu'elle prêtait aussi sa voix à Julie Andrews dans La Mélodie du Bonheur, et collectionneur de disques, je me suis dit, elle a dû enregistrer d'autres titres. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert toute la série des albums 13. Ben, on a fait plusieurs. Et puis, ce disque de comptines, donc enregistré avec André Claveau, Claire Valin et Christian Borel. Voilà. Et donc, sa voix sucrée, sa diction parfaite, l'élégance qu'elle a dans sa voix qui est très timbrée, très reconnaissable, moi, ça me séduit beaucoup. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que la voix de Maté Alteri a changé tout au long des années de ses enregistrements. Et là, c'est sa voix la plus jeune. Mais moi, j'ai tendance à préférer la voix qu'elle a finalement dans les années 60. Mais bon, c'est du Maté Alteri et tout est entendable chez Maté Alteri.
Alors, on va glisser un petit peu des chansons d'amour vers les chansons grivoises, au sens incompris par les enfants, parce que souvent édulcorées. Alors, il y a plusieurs façons d'édulcorer une chanson. Soit on change un mot, soit on enlève un couplet. Enfin, c'est voilà, pour que ce soit plus entendable par des jeunes oreilles, il faut s'adapter au public. Donc ces chansons, c'est par exemple « Les lauriers sont coupés »,« La boulangère a des écus »,« La fille de la meunière » ou « Au clair de la lune », peut-être la plus célèbre, dont il existe en fait de multiples versions.
Alors « Au clair de la lune », c'est une chanson qui au départ est carrément pour les adultes, puisque la chandelle qui est morte, dont il est fait référence dans la chanson, c'est finalement l'érection qui est évoquée ici. Voilà, donc... C'est tellement pas le registre des enfants que finalement ils prennent la chanson au pied de la lettre. Et ça change complètement le sens de la chanson. Et ce qui est amusant, encore une fois, c'est que cette chanson, si on l'écoute jusqu'à la fin, eh bien la porte se referme derrière les protagonistes qui vont passer la nuit ensemble. Et ce couplet-là, en général, il est coupé dans la plupart des enregistrements.
On va voir s'il subsiste dans la version que nous allons entendre. Enregistrée par 4 chanteurs en même temps, Claire Valin, André Claveau, Maté Alteri et Christian Borel.
Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume. Pour écrire un mot, ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. Ouvre-moi ta porte, pour l'amour de Dieu.
Au clair de la lune, Pierrot répondit, je n'ai pas de plume, je suis dans mon lit. Va chez la voisine, je crois qu'elle y est. Car dans sa cuisine, on bat le briquet.
Au clair de la lune, on n'y voit qu'un peu. On chercha la plume, on chercha du feu. En cherchant de la sorte, je ne sais ce qu'on trouvera. Mais je sais que la porte sur eux se ferma.
France Musique, Tour de chant, Martin Penet.
Extrait d'un disque de 1956, Vieille chanson de France. Donc, c'était la version complète de Au clair de la lune, D'ailleurs, on n'a pas encore expliqué toutes les subtilités du texte, parce que battre le briquet dans les cuisines, en l'occurrence, qu'est-ce que ça signifie, Gilles Hanet?
Ça veut dire faire des choses d'adulte dans la cuisine, voilà. Et alors, ce n'est pas liaison fatale sur le lave-vaisselle, mais ce n'est pas très loin. Et ce qui est amusant, c'est qu'on est en 1950 et qu'on peut très bien chanter la chanson en entier sans choquer les bonnes mœurs, alors qu'aujourd'hui, c'est vraiment beaucoup plus difficile de trouver la chanson dans son intégralité. Alors, ce qui est amusant aussi, c'est qu'au départ, la chanson, c'est plutôt donc une chanson grivoise, dont le sens se perd et devient une chanson pour le répertoire d'enfants, mais qu'il existe des versions paillardes, ensuite d'Au clair de la lune, dont on peut trouver, par exemple, des enregistrements chez Colette Renard.
Oui, les fameux, là, parce qu'il y a des disques entiers de chansons gaillardes de la vieille France. Alors, donc, là, c'est les versions versant gaillard, justement.
Oui, mais avec un vocabulaire, je crois, beaucoup plus explicite.
Ah bah oui, ça, je vous le confirme. Nous n'allons pas les diffuser ce matin, à 11h sur France Musique, mais sachez que ça existe, chers amis auditeurs. Si ça vous intéresse, eh bien, vous pourrez vous procurer les enregistrements de Colette Renard. Et donc on en arrive, Gilles Hanet, aux chansons initiatiques qu'on évoquait tout à l'heure, donc c'est-à-dire les chansons d'amour, mais à morale. Des chansons qui servent un petit peu à éduquer les enfants, ou tout au moins à les préserver des dangers potentiels qui les guettent pour plus tard.
Oui, alors là, il y en a plusieurs. Il y a Sur le pont du Nord ou Le pont de Nantes, ça dépend des versions. Il y a Je suis un petit garçon de bonne figure, où on accepte les châtiments corporels lorsque l'on est pas sage.
Aujourd'hui, ce serait plus possible.
Ah, c'est interdit. Et il y a également Mon père m'a donné un mari, où là, c'est plutôt une histoire de fille qui n'a pas choisi son époux et qui se retrouve avec un mari qui est beaucoup trop petit. Alors, trop petit, il peut être attaqué par le chat, il peut finir dans le feu. Enfin, il lui arrive des tas de malheurs. Je pense que si elle se plaint qu'il est trop petit, c'est qu'il est aussi peut-être trop petit pour des choses qui intéressent la future mariée. On a également Périne et tes servantes. Là, lorsqu'on est un galant qui va courtiser la servante du curé, on peut se retrouver au fond d'un coffre, oublié, mangé par les rats, et dont le crâne finit par devenir un bénitier.
C'est assez rude comme morale, tout de même, pour Périne et tes servantes.
Oui, mais enfin, il faut bien éduquer la jeunesse avec des images très fortes. Donc, finir mangé par les rats et avec un crâne qui sert de bénitier, je pense que ça doit décourager beaucoup de garçons d'aller courtiser les servantes du curé.
Eh bien donc, puisque vous l'avez cité, Gilles, cette chanson « Sur le pont du Nord », eh bien j'en ai retrouvé une version par Mouloudji, enregistrée en 1959, qui d'ailleurs n'était pas sortie telle qu'elle à l'époque. Et je trouve ça intéressant de voir que des chanteurs très, très connus, dont ce n'était pas du tout l'habitude de, à ce moment-là de faire des chansons traditionnelles ou des chansons enfantines, eh bien ils s'y sont collés.
Sur le pont du Nord, un balai est donné. Sur le pont du Nord, un balai est donné. La belle Adèle voudrait bien y aller. La belle Adèle voudrait bien y aller. Ma chère mère, m'y laisserez-vous aller? Ma chère mère, m'y laisserez-vous aller? Non, non, ma fille, vous n'irez point danser. Non, non, ma fille, vous n'irez point danser. Elle monte en chambre et se met à pleurer. Elle monte en chambre et se met à pleurer. Son frère arrive dans un bateau doré. Son frère arrive dans un bateau doré. Qu'as-tu, ma sœur? Qu'as-tu donc à pleurer? Qu'as-tu, ma sœur? Qu'as-tu donc à pleurer? Hélas, mon frère, je n'irai point danser. Hélas, mon frère, je n'irai point danser. Mets ta robe blanche et ta ceinture dorée. Mets ta robe blanche et ta ceinture dorée. Au premier tour, Adèle a bien dansé. Au premier tour, Adèle a bien dansé. Au second tour, le pont s'est écroulé. Au second tour, le pont s'est écroulé. Hélas, mon frère, me laisseras-tu noyer? Hélas, mon frère, me laisseras-tu noyer? Non, non, ma sœur, je vais te retirer. Non, non, ma sœur, je vais te retirer. Dans l'eau se jette et les voilà noyés. Dans l'eau se jette et les voilà noyés. Toutes les cloches se mirent à sonner. Toutes les cloches se mirent à sonner. La mère demande, qu'a-t-on à tant sonné? La mère demande, qu'a-t-on à tant sonné? C'est pour Hélène et votre fils aîné. C'est pour Hélène et votre fils aîné. Voilà le sort des enfants ostinés, voilà le sort des enfants ostinés.
Cette chanson s'appelle également Les danseurs noyés. C'est l'autre titre sous lequel on la trouve parfois. Donc voilà, un exemple de chanson éducative presque.
Ah oui, là c'est tragique. Et le meilleur de la chanson pour moi, c'est la conclusion. Voilà le sort des enfants obstinés. Oui. Ça vous apprendra. C'est un peu radical comme leçon, mais voilà.
Alors à présent, Gilles Hanet, je voudrais qu'on aborde un autre registre qui est celui de la chanson satirique. Et là, vous avez regroupé dans cette catégorie Cadet Roussel, Il court et court le furet, Le bon roi d'Agobert. Donc j'aimerais en savoir un peu plus quand même sur les circonstances d'écriture de ces chansons, parce que ça fait référence là à des personnages historiques réels. Donc Cadet Roussel, par exemple, 18e siècle, de qui s'agissait-il?
Alors Cadet Roussel, c'est un huissier de la ville d'Auxerre qui est moqué donc, dans cette chanson, qui a donc véritablement existé. Et puis,
le furet de la fameuse chanson.
Alors le furet, là pour ça, si vous êtes un adepte de l'album de la comtesse du Canard Enchaîné, vous allez pouvoir trouver très facilement la contrepétrie.
Il court, le furet.
Voilà, donc il faut inverser les deux consonnes, le F et le C, et vous allez trouver, ça fait « il fourre, le curé ». Alors évidemment, on ne peut pas chanter ça à des enfants. Donc là, il est fait référence, en fait, le curé, c'est l'abbé Dubois, qui était donc le ministre du régent.
Et donc début du XVIIIe siècle.
Voilà, et qui était réputé pour ses mœurs libertines. Et qui ont été illustrés au cinéma dans le film de Bertrand Tavernier, Que la fête commence. Et l'abbé Dubois était incarné par Jean Rochefort. Voilà.
Et alors, le bon roi d'Agobert?
Alors, le bon roi d'Agobert, en fait, on pourrait croire que c'est une chanson médiévale. Mais en fait, non, elle fait référence à l'indécision de Louis XVI. Et c'est ça qui est moqué dans la chanson. Voilà,
donc c'est une sorte de décalage, parce qu'on n'osait pas dire le roi Louis XVI, alors on a pris la figure de Dagobert.
Exactement, et après la chanson a perduré, ce qui fait qu'on a rajouté des couplets à l'époque de Napoléon III, et ça l'a tellement énervé qu'il a interdit que la chanson soit chantée. Donc aujourd'hui, évidemment, on a synthétisé certainement les couplets et elle appartient au répertoire commun avec des paroles qui, aujourd'hui, ne choquent plus personne.
Alors, en voici une version assez récente, puisqu'elle date de 2019, par François Morel.
Le bon roi d'Agobert avait sa culotte à l'envers. Le grand Saint-Éloi lui dit « Oh mon roi, votre majesté est mal culottée ». C'est vrai, lui dit le roi, je vais la remettre à l'endroit. Le bon roi d'Agobert chassait dans la plaine d'Anvers. Le grand Saint-Éloi lui dit, oh mon roi, votre majesté est bien essoufflée. C'est vrai, lui dit le roi, un lapin courait après moi. Le bon roi d'Agobert voulait s'embarquer sur la mer. Le grand Saint-Éloi lui dit, oh mon roi, votre majesté se fera noyer. C'est vrai, lui dit le roi, on pourra crier le roi boit. roi d'Agobert mangeait en glouton du dessert. Le grand Saint-Éloi lui dit: « Oh mon roi, vous êtes gourmand, ne mangez pas tant. » « C'est vrai, lui dit le roi, je ne le suis pas tant que toi. » Le bon roi d'Agobert avait un grand sabre de fer. Le grand Saint-Éloi lui dit: « Oh mon roi, votre majesté pourrait se blesser. » « C'est vrai, lui dit le roi, qu'on me donne un sabre de bois. » Le bon roi d'Agobert se battait à tort à travers. Le grand Saint-Éloi lui dit: « Oh mon roi, votre majesté se fera tuer. » « C'est vrai, lui dit le roi, alors mets-toi vite devant moi. Hein, » pas bête, hein. Dagobert mourut, le diable aussitôt accourut. Le grand Saint-Éloi lui dit: « Oh mon roi, Satan va passer, faut vous confesser. » « Hélas, lui dit le roi, ne pourrais-tu mourir pour moi ?»« Hélas, lui dit le roi, ne pourrais-tu mourir pour moi ?»
Alors ce bon roi Dagobert, enregistré en 2019 par François Morel, est tiré d'un CD qui s'intitule « Les plus belles comptines d'Oku ». Et en réalité, c'est la déclinaison en disque d'une série télévisée, une collection de 40 comptines animées, interprétées par les plus grands artistes français de la chanson, sur des arrangements originaux créés et dirigés par Yvan Cassard. Et chaque comptine a son univers graphique et artistique, créé par l'illustrateur Guillaume Delaunay. Donc c'est quand même un projet assez ambitieux. Et on y retrouve aussi des personnages illustres des chansons pour enfants, chansons populaires comme La Mère Michel, Le Père Lustucru, Polichinelle, Arlequin. Et j'aimerais savoir, Gilles, d'où sortent tous ces personnages ?
Bien, certains sont issus de la Commedia dell'arte, hein. Vous avez parlé de Polichinelle, Arlequin, Pierrot. Il y en a d'autres qui sont issus du théâtre du Guignol lyonnais, Polichinelle, La Mère Michel. Et puis, il y a aussi des personnages historiques. Par exemple, compère Guillery, ce serait en fait un bandit qui sévissait à l'époque d'Henri IV. Voilà, donc il y a un foisonnement de personnages tout à fait inattendu. Et bien sûr, il y a aussi le loup des contes.
Alors, la mère Michel, par exemple, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce personnage illustre ? D'ailleurs, la chanson a un double sens, je crois.
Oui, alors, la mère Michel, c'est l'archétype de la vieille fille. Et donc, qui cherche, contrairement aux autres jeunes filles que nous avons évoquées tout à l'heure, qui voulaient préserver leur virginité, elle souhaite, elle, au contraire, s'en débarrasser. Mais le père Lustucru, lui, n'est pas du tout intéressé. Et donc, le père Lustucru cuisinera donc en lapin le pauvre chat de la mère Michel.
Et à part ça, est-ce que le chat symbolise autre chose ?
Alors, le chat, c'est l'intimité de la mère Michel et c'est l'évocation de sa virginité, en fait.
Bon, alors, on va voir ce que ça donne dans cette interprétation des comédiens français qui datent du milieu des années 50, parce que les membres de la Comédie française, par exemple Jean Piat, Robert Manuel, Denise Provence, eh bien, avaient décidé de chanter pour les enfants avec tout leur art et dans une version très suggestive.
C'est la mère Michel qui a perdu son chat, qui crie par la fenêtre à qui le lui rendra. C'est le compère Lustucru qui lui a répondu:
allez la mère Michel, votre chat n'est pas perdu.
Sur l'air du tra-la-la-la, sur l'air du tra-la-la-la, sur l'air du tra-déribéra et tra-la-la.
C'est la mère Michel qui lui a demandé:
mon chat n'est pas perdu, vous l'avez donc trouvé.
Et le compère Lustucru qui lui a répondu:
donnez une récompense, il vous sera rendu.
Sur l'air du tra-la-la-la, sur l'air du tra-la-la-la, sur l'air du tra-déribéra et tra-la-la.
Et la mère Michel lui dit:
c'est décidé, si vous me rendez mon chat, vous aurez un baiser.
C'est le compère Lustucru qui n'en a pas voulu, lui dit:
pour un lapin, votre chat fut vendu.
Sur l'air du tra-la-la-la, sur l'air du tra-la-la-la, sur l'air du tra-déribéra et tra-la-la.
Et donc, est-ce que vous avez encore d'autres personnages à nous proposer?
Ah ben, le plus connu après, c'est le moine frère Jacques, qui fait partie des représentants de la société qu'on évoquait tout à l'heure, donc avec la royauté, le tiers-état et donc le clergé qu'on aborde à présent.
Oui, et donc cette chanson, c'est une des bien anciennes aussi, je crois.
Alors elle est ancienne et puis sa particularité, c'est qu'elle fonctionne en canon. Et ça, c'est vrai que quand on est en colonie de vacances, par exemple, c'est tout le plaisir de chanter ensemble qui peut être exploité avec cette chanson, comme par exemple d'autres, comme c'est la cloche du vieux manoir, par exemple.
Là, on a choisi une version par Lucienne Vernet et les Quatre Barbus. Et je crois qu'on leur doit beaucoup d'enregistrements de comptines et de chansons pour enfants. Et vous les aimez, d'ailleurs, aussi, ils font partie de votre panthéon d'artistes élus, je dirais, d'une certaine façon.
Oui, alors Lucienne Vernet, c'est très important parce que c'est une des premières à avoir enregistré énormément de chansons de comptines. Je crois qu'il y en a 75 qui ont été enregistrées chez Philips. Et avec les Quatre Barbus, ce qui est un double plaisir, puisqu'il y a la voix de Lucienne Vernet qui est agréable, et il y a surtout les harmonies vocales des Quatre Barbus qui rehaussent aussi ces arrangements, et qui leur donnent un côté qui n'est pas du tout mièvre, qui est même sautillant, parfois dramatique, et toujours très euphonique. Et ça, c'est le vrai plaisir de ces enregistrements-là, qu'on ne sent pas forcément destinés aux enfants. Et c'est ça que j'aime bien, c'est qu'on peut les écouter aujourd'hui avec un véritable plaisir. Ce n'est pas mièvre, les orchestrations sont travaillées, c'est vraiment un beau produit.
Alors chez Philips, Lucienne Vernet, les Quatre Barbus étaient accompagnés par Marcel Cariven, comme chef d'orchestre et arrangeur. Et il existe également un disque produit par Jacques Canetti, un peu plus tard. Et là, c'est l'orchestre d'André Grassi qui les accompagne dans ce canon, donc Frère Jacques, dont on va apprécier le montage vocal assez subtil.
Frère Jacques,
frère Jacques,
dormez-vous,
dormez-vous,
sonnez
les matines,
ding-ding-dong,
ding-ding-dong.
Lucienne Vernet et les Quatre Barbus dans ce joli canon sur une chanson intemporelle, quasi éternelle, j'ai envie de dire, Frère Jacques, dont les cloches accompagnent merveilleusement ce Noël qui approche à grands pas. Et je vous remercie beaucoup, Gilles Hannet, de nous avoir accompagnés dans cette exploration du répertoire des chansons enfantines. Thème du jour, mais qui va se prolonger la semaine prochaine, car on n'a pas fini notre périple. C'est tellement vaste, il faut dire.
Ah, l'histoire n'est pas finie, non. On a encore beaucoup de choses à se raconter.
Donc, à très bientôt.
Au revoir, Martin.
Tour de chant, une émission de Martin Penet, avec le concours d'Isé Echorn à la préparation, Jaizan Blondeau-Taous à la technique et Fanny Constant à la réalisation. Merci à Rémi Caramel.
France Musique.